La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et c'est l'heure d'Esprit Libre avec Franz-Olivier Gisbert. Mais nous commençons ce matin avec un livre politique qui va l'intéresser. Ça s'appelle Au Perchoir. Oh oui. C'est paru à l'Archipel. C'est signé Annabelle Roger, journaliste et rédactrice en chef à la rédaction de Radio Classique. On en parle juste après ça.
Les élus du peuple sont tous égaux en droit et en devoir. Les droits, vos droits, je les défendrai.
Je vous en prie, Monsieur Magnelli. Je suis prêt à recevoir des leçons de quiconque, pas de vous.
Permettez-moi très simplement de vous remercier, de vous adresser mes vœux à chacune et à chacun d'entre vous, et vous dire très simplement aussi que cela restera l'honneur de ma vie d'avoir présidé l'Assemblée nationale. Je vous remercie.
Bonjour Annabelle Roger.
Bonjour David.
On vient d'entendre dans l'ordre Jacques Chaban-Delmas, Philippe Séguin et Jean-Louis Debré. Il y manquait Yaël Braun-Pivet pour qu'il y ait une femme et quelqu'un qui ne soit pas issu complètement de la droite comme les trois précédents. Vous publiez ce livre sur les présidents de l'Assemblée nationale. Quel est celui qui vous a le plus marqué ?
C'est finalement ce qu'on vient d'entendre.
Ouais.
En réalité, Jacques Chaban-Delmas, parce que c'était une vraie personnalité, il portait la jaquette, c'est celui qui a présidé le plus longtemps, 15 ans. Philippe Séguin, par sa personnalité éruptive, hein, il balançait les cendriers hein, quand il était pas content, et puis à la fois très attachante, il s'appelait lui-même le petit chose. Et puis Jean-Louis Debré, oui, effectivement, parce que ça a été son grand bonheur, il le dit lui-même, ça a été sa passion.
Il a adoré être de droite et de gauche, lui, à l'Assemblée nationale.
Il s'entendait très bien, ouais. Peut-être même parfois plus avec la gauche que la droite, figurez-vous. Et puis évidemment, Yaël Braun-Pivet, parce que c'est la première femme, et puis parce qu'elle s'est battue, y compris contre Emmanuel Macron, pour accéder au perchoir.
Oui, elle s'est battue pour avoir le job, alors que souvent, les présidents de l'Assemblée nationale ont la présidence de l'Assemblée nationale en attendant mieux, c'est-à-dire Premier ministre ou Président de la République, ou alors parce qu'ils n'ont pas été Premier ministre ou Président de la République. C'est toujours par défaut. Yaël Braun-Pivet, elle en avait envie.
Ça peut être un lot de consolation, effectivement, puis ça mène finalement jusqu'à présent pas très loin. Hein. C'est pas un tremplin hein, entre le Palais de Bourbon et le Palais de l'Élysée. Yaël Braun-Pivet, c'était vraiment son truc. Elle y pensait
en s'épilant.
Peut-être en s'épilant très très tôt. En tout cas, elle a essayé. Elle s'est fait barrer la route. Et puis, à la faveur des dernières élections, à la faveur aussi de l'élimination de Richard Ferrand, hein, parce que c'était pas du tout elle qui devait venir, elle a été élue contre le président de la République, contre sa volonté.
Elle s'est accrochée. Alors, il y en a des histoires de président de l'Assemblée nationale. On se souvient de l'affaire des homards et de Monsieur Rugy, qui a dû démissionner. C'est difficile de présider l'Assemblée nationale. On l'a encore vu, d'ailleurs, au moment du discours de politique générale de Gabriel Attal. Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'était inaudible. Il y avait un brouhaha permanent, un bruit de fond. Franz-Olivier Gisbert me dit, c'est comme d'habitude, rien de neuf sous le soleil. Mais les gens estiment que si on veut être exemplaire,
non,
il faut
quand
même...
Non, c'est plus haineux aujourd'hui.
Oui, c'est plus haineux.
C'était drôle du temps de André Fanton et Robert André Vivien que je citais
tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure.
Ils étaient drôles.
En fait, ça a changé parce que auparavant, c'était organisé. C'est-à-dire qu'on avait une gauche, une droite, qui arrivaient au pouvoir les uns après les autres. Jean-Louis Debré nous le dit, il donnait par exemple 20 minutes à l'opposition. Il leur disait, voilà, vous avez 20 minutes pour chahuter, pour faire le bazar. Par contre, quand je tape sur ma règle, c'est terminé. Aujourd'hui, Yaël Braun-Pivet, elle va pas dire ça au groupe de Marine Le Pen, ni à celui de Mathilde Panot.
Ça s'appelle Au Perchoir, c'est passionnant. Si vous aimez la politique, si vous aimez la démocratie, vous lirez le livre de Jean-Pierre Bédéi et Annabelle Roger. C'est paru à l'Archipel. Ça s'appelle Au Perchoir. Merci Annabelle.
Merci.
Ça a l'air bien.
Et félicitations pour ce livre que vous allez offrir à Franz-Olivier Gisbert. Franz est avec nous
Bonjour.
Esprit Libre. Franz, par quoi voulez-vous commencer ? Je voudrais qu'on commence avec la grève des enseignants, moi. Parce que c'est un peu le calvaire pour la ministre de l'Éducation nationale. Hein.
Vous avez raison. Cette grève était prévue depuis un certain temps. Hein. C'était pour les augmentations de salaire et pour l'amélioration des conditions de travail. Mais ils ont rajouté, les quatre syndicats qui organisent cette grève, ils ont rajouté la défense de l'école publique. Ah bon ? Première nouvelle ? Elle serait menacée ? Ben oui. Parce que contre Amélie Oudéa-Castéra, hein, on dit AOC, Mediapart sort une affaire tous les jours. Que dis-je tous les quarts d'heure, là, maintenant ?
C'est un feuilleton.
C'est un feuilleton. Et je pense qu'il va pas la lâcher, ce site de l'ultra-gauche. Et parce qu'il aime faire sauter les ministres avec des informations plus ou moins graves ou plus ou moins vérifiées, hein, mais qu'importe, puisque tous les médias le suivent comme les moutons de
Paris. Alors justement, tous les médias le suivent, et je voudrais m'arrêter là-dessus. là-dessus. C'est assez curieux quand même. Les éditorialistes des différents médias qui le suivent, à la radio, à la télévision ou ailleurs, disent Mediapart feuilletonne, Mediapart s'acharne sur Madame Oudéa Castéra.
Ça a marché.
Sauf que les médias reprennent Mediapart et continuent l'emballement médiatique et l'acharnement médiatique sur Madame Oudéa Castéra. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment vous comprenez cette logique?
Elle a dit des bêtises.
On se défie de Mediapart et en même temps on en rajoute une couche.
Elle a dit des bêtises, mais on pourrait passer à autre chose. Et puis il y a quand même l'exemple de Régie, il faut pas se souvenir. Il faut se rappeler que c'était quand même un faux scandale, hein, ces histoires de homards congelés. Et puis vous vous souvenez aussi du week-end hivernal de Jean-Michel Blanquer. Enfin tout ça c'est de la bouffonnerie, c'est le degré zéro de la politique. Et on est obligé de commenter. Ben voilà. Elle n'avait qu'à pas être élue. Elle n'avait qu'à être de gauche en fait, je pense. Mais oui, bien sûr. Ou de l'ultra gauche, ça aurait été encore mieux. Regardez, Gérard Miller, lui, il bénéficie de la présomption d'innocence. Et c'est pas moi qui m'en plaindrai. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et je trouve que ça devrait profiter à toutes les personnalités qui sont attaquées. Voilà.
Mais vous arrivez à faire un rapport entre Gérard Miller et la ministre de l'Éducation nationale.
Ben oui, parce que il est à l'ultra. Quand vous êtes très à gauche, vous êtes protégé. D'ailleurs, il y a l'exemple d'Olivier Dussopt. Hein, qui est formidable. L'autre jour, le parquet national a fait appel de la relaxe d'Olivier Dussopt, donc on va recommencer le procès. Sa relaxe avait été décidée par le tribunal correctionnel de Paris à la suite d'accusations de favoritisme. Vous vous souvenez, bon. Oui. Le PNF avait requis 10 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, et il est furieux. Alors moi, message personnel à Olivier Dussopt. Olivier, il fallait m'écouter. Vous venez de la gauche et vous êtes devenu macroniste. Affreuse erreur, retournez à gauche et vous verrez, le PNF vous laissera tranquille.
Ah, c'est la morale de l'histoire, il faut être de gauche pour que la justice ou les syndicats de l'éducation nationale vous laissent tranquille. Tiens, quel est l'avenir ministériel de ces deux-là? Dussopt n'est pas dans le gouvernement, Madame Oudéa Castéra y est encore. Est-ce qu'il peut y avoir un chassé-croisé à l'occasion du prochain remaniement?
Pense pas, non. Je pense pas, c'est difficile de céder maintenant. Enfin, je pense que Macron, il va tenir quelques mois. Ce qui est sûr, c'est qu'il va chercher une manière d'exfiltrer Amélie Oudéa Castéra à un moment donné. Et Dussopt, il viendra peut-être un jour, il reviendra.
Et pourquoi il rentrerait pas au gouvernement puisqu'il a été blanchi?
Ah bah oui, mais le PNF, il a fait ça pour ça. Ouais. Il a fait appel, donc il y aura un nouveau procès. Il faut suivre, David. Mais il ne lâche pas l'affaire.
Bon, j'en viens aux ambitions de Gabriel Attal. Ambition pour la France. Débureaucratiser, déverrouiller, désmicardiser. Vous étiez devant votre poste de télévision mardi. C'est quand même assez inédit, ce jeune Premier ministre. Je le redis, 34 ans, devant une Assemblée nationale bruyante, inattentive. Vous me dites, c'est la routine, mais tout de même...
Il a été plus suivi, son discours, que ceux d'Edouard Philippe et d'Elisabeth Borne. Vous me direz...
Et pourtant, il a fait plus long.
Ouais, mais il était moins ennuyeux. Et je dirais même qu'il était très bon. Alors après, simplement, c'est toujours la même histoire. Est-ce qu'il faut y croire? On a envie d'y croire, mais l'expérience ne nous y incite pas, vous voyez. Toute personne, en plus, qui arrive au pouvoir, vous parliez de la débureaucratisation, toute personne qui arrive au pouvoir en France, elle nous promet la simplification administrative. Hein. Vous savez, toute cette histoire, elle commence avec Pompidou, 1966, quand il est Premier ministre, il a un jeune collaborateur, âgé de 33 ans, hein, un peu plus jeune que Gabriel Attal, qui s'appelle Jacques Chirac, qui arrive dans son bureau avec plein de parapheurs à signer. Une flopée de décrets. Et qu'est-ce qu'il dit, Pompidou? Il explose. Ça avait beaucoup frappé Chirac, il rappelait toujours cette histoire. C'est dans son biographe Thierry Desjardins qui l'a raconté. Mais arrêtez donc d'emmerder les Français, hurle Pompidou. Il y a trop de lois, trop de textes. Parce que Chirac le répétait tout le temps. Trop de règlements dans ce pays, on en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Hein, bon. Et Chirac, vous vous souvenez, il aimait rappeler que le nombre de lois avait doublé depuis 1966, donc personne n'avait écouté. Et quand il fait son discours, son message au Parlement après son élection en 1995, il dit « Trop de lois tue la loi ». Et puis il avait réclamé aussi une simplification administrative, expression qu'a employée ensuite François Hollande. Et puis après son élection, en 2017, alors ça c'est encore plus drôle, Emmanuel Macron, il s'est pas fatigué. Il a repris quasiment mot pour mot le message de, au Parlement de Chirac de 1995, un vrai copier-collé. Il y a trop de textes, trop de, je cite, hein, trop de lois, trop de règlements. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Et pourtant, les normes, comme on dit, ont augmenté de 15% pendant le premier quinquennat de Macron. C'est le problème avec ces politiques. Ils croient que quand ils disent quelque chose, ils le font. Eh ben non, eh ben on en a encore eu la preuve. Et cette suradministration, elle coûte cher à la France. Alors, Gabriel Attal l'évalue à 60 milliards, ça c'est sûrement douillé, moi je sais pas trop. Mais il reste que il va bien falloir à un moment donné élaguer. Alors en 2020, j'ai lu ça, mais enfin, les chiffres n'arrêtent pas de monter. On pouvait estimer qu'il y avait 400 000 normes en France, 11 500 lois, avec 320 000 articles, et en prime 130 000 décrets. C'est des chiffres qui vous donnent le vertige, non? Et puis après ça, cerise sur le gâteau, des textes de plus en plus longs qui ont doublé de 2002 à 2022, en passant de 2386 mots à 6064 mots. Hein? Au secours.
Comment vous expliquez, vous qui êtes un peu historien, et non seulement de la Ve République, mais des mœurs françaises, qu'autant des technologies, qu'autant du progrès technique, finalement, on en soit resté à un Courteline 2.0, à l'administration qui édicte toujours plus de textes, toujours plus de normes, alors que dans les entreprises, on essaye d'alléger, on essaye de chercher l'agilité, et surtout la simplicité des parcours de ce qu'on appelle dans les entreprises les parcours clients, ou l'expérience client, on essaye de rendre ça plus simple. Les clients de l'État français, ils n'ont pas une expérience client toujours aussi bonne.
Eh ben, c'est le système qui a perdu la tête. Et il y a Ronald Reagan, l'ancien président des États-Unis, qui était un personnage très drôle, et il disait, regardez, écoutez ça 5 minutes, « Tout ce qui bouge, on le taxe. Ce qui bouge encore, on le réglemente. Ce qui ne bouge plus, eh ben, on le subventionne. » Voilà. C'est un peu ça qui nous arrive. C'est arrivé dans tous les pays, mais c'est une espèce de... Oui, c'est la folie administrative, et à un moment donné, faudra y mettre un terme.
Vous avez 30 secondes pour me dire, c'est un peu court, hein, cher Franz, pour me dire comment vous voyez évoluer cette crise agricole. On recevait Christiane Lambert il y a quelques minutes, qui a été très claire, très pragmatique aussi, pas anti-européenne, évidemment pro-agricole. Comment vous voyez évoluer, vous, cette crise agricole, loin des récupérations politiques ?
Bon, il y a un problème de revenus, ça c'est évident. Faut le régler. Les prix. Vous voyez bien que quand on voit la situation économique française, c'est vrai que nous sommes en récession. Faut pas le dire, mais enfin, le troisième et quatrième trimestre de 2023, nous sommes à moins 0,00. Enfin, on est en baisse. Donc, il y a moins d'argent dans les caisses, et c'est clair qu'il faut faire quelque chose de ce côté-là. Mais c'est pas la seule chose. Et puis, c'est pas seulement l'Europe. C'est là, on retrouve encore la question des normes dingue. Vous savez que le nombre de normes idiotes, il y a des dates, par exemple, pour labourer. Mais vous croyez qu'ils ne savent pas les dates, hein? Vous pensez pas que c'est pas important pour eux? Non. Et puis, il y a sûrement des bureaucrates qui surveillent, en plus, si c'est à l'heure. Enfin, c'est complètement hallucinant. Pour semer les couverts végétaux, vous savez, c'est ces cultures intermédiaires qui permettent de pas laisser les sols à nu après les moissons ou les labours. Eh ben, il faut une demande. Voilà, pour changer la culture qu'il était prévu de semer, c'est la même chose. Ou pour entretenir un fossé, il faut faire une demande. Voilà, donc il y a quelque chose qui cloche. Churchill disait, en Allemagne, là c'est une autre blague, tout est interdit sauf ce qui est permis. En France, tout est permis sauf ce qui est interdit. Bah, je vais vous dire, il y a un problème. Les Français ne sont pas des Allemands, ça pourra jamais marcher.
Franz-Olivier Gisbert, éditorialiste français et Esprit Libre de Radio Classique. Merci à vous, on vous retrouve jeudi prochain. On va se quitter avec Mahalia Jackson. Le 1er février 1972, 5000 personnes assistent à ses funérailles, aux funérailles de la chanteuse de jazz à Chicago. Parmi ceux qui sont là, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Sammy Davis Jr. et la veuve de Martin Luther King. Franz, vous restez quand même avec nous pour nous donner la pendule à 9h, s'il vous plaît.